Alors, lors du culte de la semaine dernière, si vous étiez là, Jean nous partageait le passage de Romains 4 et l'exemple d'Abraham qui a cru à la promesse de Dieu et qui a donc été justifié sur la base de sa foi et non de ses œuvres. Car comme le dit Romains 4, 16, c'est par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais personnellement, j'ai l'impression d'avoir un problème. J'ai régulièrement le sentiment qu'il me manque encore quelque chose, qu'il manque quelque chose à ma foi. Et je crois que le problème vient du fait que j'aimerais éradiquer le problème du péché dans ma vie. Je désire marcher en nouveauté de vie, mais je suis continuellement confronté à mon péché, à mes erreurs, à mes faiblesses, à ma difficulté. Et tout cela fait que je ne trouve pas la paix, et que je n'arrive pas à être le chrétien que j'imagine devoir être, si je puis dire. Pourtant, dans Romains 5, je vais prendre la suite du coup de Romains 4, et je pense que je vais vous le lire une première fois, enfin, la partie qu'on va prendre ensemble, parce qu'en fait, je vais le reprendre par verset, mais je me suis dit que c'était bien peut-être de relire le passage complet du coup. Donc, dans Romains 5, versets 1 à 5, on lit « Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. » Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, dans Romains 5, verset 1, on lit « Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pourquoi donc suis-je incapable de ressentir cette paix ? En relisant Romains 4, j'ai été interpellé par les versets 1 à 5. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre ? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Si quelqu'un ne fait rien, mais croit. La grâce est un cadeau qui ne nécessite rien de notre part. Elle est reçue sans rien faire. Et je me suis dit qu'il y avait ici peut-être une clé pour avancer dans ma vie de chrétien. Ne rien faire. Sur ce principe, j'ai décidé d'arrêter ce message ici et de vous laisser ne rien faire pour que Dieu puisse vous donner cette grâce qu'il a envie de vous donner. Non, je vais rester encore un petit peu avec vous. Ça aurait pu être le message le plus court de votre vie. Et pourquoi pas ? Je me suis dit aussi. Mais ne rien faire, mais croire. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un non-sens là-dedans. Croire peut-il être considéré comme ne rien faire ? Croire, n'est-ce pas déjà faire quelque chose ? La définition de croire, c'est penser que quelque chose est véritable. Donner une adhésion de principe à. Être persuadé de l'efficacité de quelque chose, se fier à, s'en rapporter à. Voilà la définition de croire. Croire est donc de l'ordre de la pensée, de l'intellect, du cœur. C'est une prise de décision, mais n'est en quelque sorte pas quelque chose de matériel, de physique. Pour croire, il n'y a pas besoin d'investir ou de faire quelque chose. Qu'aurais-je donc à donner de toute façon ? On vient de le chanter. Qu'ai-je de plus précieux que ma vie ? Et encore, cette vie, je l'ai reçue même du Seigneur. Donc je donne en retour au Seigneur quelque chose que lui-même m'a donné. Cela prouve encore une fois que c'est de Dieu que vient toute initiative. Toutes choses nous viennent de lui, puisque personnellement, je n'ai rien à faire. En réalité, en fait, moi, je n'ai rien à faire. Mais c'est parce que je suis au bénéfice de quelqu'un qui a déjà fait quelque chose. C'est par l'intermédiaire de quelqu'un que je suis au bénéfice de cette grâce. Romains 5, verset 2 nous le dit, « C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce. » Son intermédiaire, c'est celle de Jésus-Christ. Jésus a été notre intermédiaire, ou on peut dire aussi notre médiateur. Le rôle d'un médiateur dans un conflit, c'est d'être un intermédiaire entre les deux parties afin d'essayer de régler ce conflit en les aidant à trouver un accord. Alors je vais vous lire le chapitre d'Ésaïe 53 pour que vous compreniez comment Dieu a été notre intermédiaire. Ésaïe 53. Qui a cru à notre prédication ? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé, sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort ? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants ? Frappé à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. » Donc Jésus est intervenu en notre faveur et c'est par ses blessures que nous avons été guéris, c'est par ses meurtrissures que nous avons été sauvés. Donc on voit bien que ce que méritait notre péché, c'est Jésus qui l'a pris à la croix, qui les a cloués pour nous à la croix. Et donc en fait, même si nous n'avons rien à faire dans ce processus du salut à part croire, il y a bien quelqu'un qui a payé le prix à notre place et qui s'est fait notre intermédiaire. La volonté de l'Éternel a été accomplie par son intermédiaire, Jésus-Christ. Donner sans rien attendre en retour, c'est la définition du sacrifice. En tant que père, je commence à comprendre ce qu'est la grâce. Mes enfants ne sont pas toujours reconnaissants, ils ne sont pas toujours très obéissants, ils font souvent des bêtises et peuvent même être égoïstes et méchants, mais cela ne m'empêche pas de leur faire grâce. Ils ont beau ne pas toujours être gentils, cela ne m'empêche pas de les aimer et de continuer à leur faire plaisir, de les chérir et de les gâter. Nous, nous sommes les enfants de Dieu. À l'image d'un père, Dieu nous aime comme moi je peux aimer mes enfants. Et sa grâce, il nous l'accorde sans rien attendre en retour. Lorsque je me dispute avec un de mes enfants et qu'il y a une séparation, un éloignement, je suis heureux de le voir revenir auprès de moi et de me demander pardon. Notre relation, elle est ainsi restaurée et je ne lui refuse jamais mon pardon. Dieu est en paix avec moi, Dieu est en paix avec toi. La question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que toi, tu es en paix avec lui ? Qu'est-ce qui t'empêche de retourner auprès de lui pour recevoir son pardon qu'il te donne déjà ? Lui est prêt à te donner le pardon que toi-même, peut-être, tu n'es pas prêt à recevoir. Alors, j'apprécie les commentaires de ma Bible d'études et je remercie vraiment le Seigneur d'avoir conduit et inspiré des gens pour répondre parfois à mes interrogations. Là, ici, en l'occurrence, c'est dans ma Bible, dans mes commentaires, mais aussi les gens que je peux entendre aussi prêcher. Et dans le commentaire du verset 1 de Romains 5, ma Bible d'études dit « Nous avons maintenant la paix avec Dieu, mais cela ne se traduit pas nécessairement par un sentiment de calme et de tranquillité. Cette paix avec Dieu signifie que nous avons été réconciliés avec lui. Il ne subsiste plus d'hostilité entre nous. Il n'y a plus de péché qui paralyse notre relation avec lui. Tout cela est devenu une réalité uniquement parce que par sa mort sur la croix, Jésus-Christ a payé le prix dû par nos fautes. Notre intermédiaire, notre médiateur a payé ce que nous avions à payer. Et il n'y a plus d'hostilité. Il n'y a plus rien qui nous empêche d'aller auprès de Dieu à partir du moment où on croit et qu'on donne notre vie au Seigneur, puisque lui a déjà accompli toute chose afin que nous puissions avoir cette relation avec lui. Est-ce que ça vous arrive de penser que la vie, elle est injuste ? Après tout, nous n'avons rien demandé à cette situation. Je n'ai pas choisi de vivre et ce n'est pas de ma faute si je suis né pécheur. Pourquoi donc devrais-je combattre quelque chose que je n'ai pas voulu ? Alors l'humanité entière, elle a une nature pécheresse et nous sommes tous pécheurs et notre péché affecte tout notre être. C'est la doctrine de la dépravation totale que l'on trouve aussi biblique. Et en fait, on est tous égarés, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 53, verset 6. Nous sommes tous égarés. Et Paul aussi, par exemple, reconnaît « Mais moi, je suis marqué par ma nature vendue au péché » dans Romains 7, 14. Plus loin, dans 7, 25, « Par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. » Salomon, il abonde aussi dans ce sens en disant « Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et ne pèche jamais. » Ecclésiaste 7, verset 20. Et l'apôtre Jean, il va le dire encore plus clairement en disant « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » On voit ça dans 1 Jean 1 au verset 8. Donc c'est indéniable, nous avons en nous cette nature pécheresse. Et je vous disais mon problème au début de vouloir régler cette nature pécheresse et ce problème avec lequel je suis confronté, j'ai l'impression d'avoir toujours un souci, comme si je ne pouvais pas avancer plus avec le Seigneur parce que oui, le péché nous freine. Et donc du coup, même si on a été libéré de tout ça, etc., que Dieu nous donne la victoire, voilà, il y a quand même encore des choses avec lesquelles on peut buter. Et des fois, on a l'impression que voilà, à cause de ça, on ne peut pas avancer avec le Seigneur. Et donc en fait, on est attaché à ce péché par le péché originel, celui d'Adam. On l'hérite d'Adam. Et on peut se demander en fait en quoi nous, on est responsable de cette situation. Alors j'ai lu un article. Et l'article il répond à cette question « Pourquoi suis-je tenu responsable de mon péché alors que je n'ai pas demandé à naître ?» Voilà ce que la personne répond. « Dire « je n'ai pas demandé à naître » est soit irrationnel, soit évident, mais n'a en tout cas aucun sens. Quand nous sommes conçus, nous existons en tant qu'âme vivante. Sans cela, nous ne pourrions même pas nous poser la question de notre existence. En gros, si nous n'avions pas la vie, nous ne pourrions pas nous poser cette question de bah, pourquoi est-ce que je suis là et pourquoi est-ce que je continue à pécher, etc. S'adressant à ceux qui s'opposent à la souveraineté de Dieu, Paul dit, dans Romains 9 au verset 20 et 21, « Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu ? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour en faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable ? C'est le fait de l'existence elle-même. Que l'on soit heureux ou non d'exister, nous existons. Et ce qu'une personne choisit de faire de son existence est tout ce qui compte. Les philosophies chrétiennes et non chrétiennes se sont attaquées à ce problème et arrivent généralement à la même conclusion. Nous existons, donc nous devons faire face à l'existence. Même si nous préférerions n'avoir jamais existé, nous existons et cela ne peut être autrement. Lorsque nous créons quelque chose, nous présumons à juste titre le droit de décider de son objectif. Personne ne demande à un pot, à un ordinateur ou à un tableau la permission d'être créé. Nous ne supposons pas non plus que la chose créée a plus d'autorité que nous. En tant que personnes faillibles, nous avons souvent du mal à nous rappeler que nous sommes des êtres créés et que Dieu est notre créateur. Il n'y a rien de contradictoire ou d'injuste à ce que Dieu nous rende responsables de nos péchés, même si nous n'étions pas impliqués dès le commencement de notre existence. Ceux qui prétendent qu'ils ne voulaient pas être créés le font toujours dans le contexte du rejet de la moralité de Dieu, du salut ou d'un enfer éternel. Pourtant, être créé nous offre aussi l'opportunité d'une béatitude éternelle. Tout péché est un choix, et ceux qui choisissent de rejeter l'offre du salut de Christ choisissent vraiment. Jean 3, verset 36 nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Répondre au jugement de Dieu avec « Je n'ai jamais demandé ce choix », c'est vraiment dire « Je ne veux faire les choses qu'à ma façon et toujours obtenir le résultat de ce que je veux. » Il n'y a aucun moyen pour quelqu'un de demander à être créé. Que Dieu seul décide quand nous commençons à exister n'enlève pas notre culpabilité quand il s'agit de péché ou de salut. Plutôt que de nous plaindre d'avoir le choix entre la misère éternelle et la joie éternelle, nous devrions nous réjouir d'avoir l'opportunité d'une existence sans fin avec Dieu. Par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, Jésus a satisfait la colère de Dieu contre le péché, si bien que ceux qui croient en lui peuvent à présent remporter la victoire contre leur nature pécheresse. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. 1 Pierre 2, verset 24. Par sa résurrection, Jésus offre une nouvelle vie à tous ceux qui étaient esclaves de leur nature corrompue. Ceux qu'il a régénérés sont à présent appelés à obéir à ce commandement. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. On le lit dans Romains 6 au verset 11. Donc trop souvent, on cherche à se déculpabiliser, soit en accusant notre situation comme si tout cela ne dépendait pas de nous, soit en accusant quelqu'un d'autre pour nous donner bonne conscience, tu vois pas, il fait bien pire que moi, soit en accusant Dieu ou le monde. Je ferai un bref aparté parce que l'accusateur dans la Bible, c'est ni plus ni moins que Satan. Dans Apocalypse 12 au verset 10, on entend « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Alors ne soyons pas des accusateurs. Arrêtons d'accuser le monde ou Dieu ou les situations puisque, je vous rappelle, en Romains 8, verset 1, on nous dit qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Chacun est responsable pour sa part et donc doit choisir de vivre pour non ou non pour Dieu. Alors tenons ferme dans cette grâce et plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Car cette promesse nous est faite, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, si nous le renions, lui aussi nous reniera. On le lit dans 2 Timothée 2, verset 12. Il y a un dernier point qui m'a marqué dans ce passage, c'est les versets 3 et 5 à 5 de Romains 5. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pouvoir être fiers même de nos détresses, car comme le dit le passage, elles produisent ces détresses la persévérance, qui accorde la victoire et ainsi l'espérance. Qu'est-ce qu'elles peuvent être les détresses dans nos vies ? Elles peuvent être des faiblesses, des incapacités, des persécutions, des maltraitances, des rejets, peut-être même la pauvreté. Mais dans toutes ces épreuves, eh bien, elles font que nous nous confions en Dieu et cela permet que notre foi grandisse. Alors que je réfléchissais aux épreuves dans ma vie, je me rendais compte même que certaines d'entre elles l'étaient parce que j'aimais Dieu. Certaines de nos épreuves le sont car l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et si je considère certaines choses comme des épreuves dans ma vie, c'est que Dieu me rend capable de voir mes propres difficultés afin de pouvoir y travailler. Je m'explique. Certaines de nos difficultés sont des difficultés parce que nous en sommes conscients. Quand nous cherchons à plaire à Dieu, quand nous cherchons à être conformes à ce que Dieu veut pour notre vie, nous rencontrons des difficultés et nous livrons des combats. Si je ne connaissais pas Dieu, s'il n'était pas présent dans ma vie, certaines de mes difficultés n'en seraient pas parce que je m'en rendrais même pas compte. Donc le fait d'aimer Dieu, de croire en Dieu, eh bien, on a envie de lui plaire parce que nous avons l'Esprit de Dieu aussi qui nous montre certaines difficultés dans nos vies qui ne le seraient pas si on n'avait pas cet Esprit. Pour certains, par exemple, il n'est pas mal de voler. Car nous sommes dans un monde voleur et on se fait tous voler à un moment ou à un autre. Cependant, Dieu nous dit que celui qui volait ne vole plus. Et malgré que je vive sous la grâce, cette loi, je vais l'appliquer par amour pour Dieu. Car le plus grand des commandements, je le rappelle, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Je n'aimerais pas qu'on me vole, alors pourquoi est-ce que j'irai voler mon frère ? Donc Dieu nous rend conscients même de nos difficultés, car il veut notre progression, il veut que nous persévérions, afin d'obtenir la victoire et l'espérance. Aimer mes enfants ne veut pas dire leur laisser tout faire. 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10 nous dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontairement de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Dans le verset de Romains 5, ça me fait penser aussi qu'à la suite de ce que j'ai lu, on dit aussi justement « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. » Donc, Christ est venu nous chercher alors même que nous étions sans force. Et après, il nous donne du coup ses capacités de justement battre et combattre le péché puisqu'on a déjà la victoire en nous. Alors, simplement pour finir, je voudrais paraphraser un petit peu le chapitre 5, du coup, enfin, la partie que j'ai lue. Et simplement modifier, je suis toujours un peu méfiant, parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas changer la parole de Dieu. Donc, je ne vais pas changer en soi la parole de Dieu, mais je vais simplement changer le « nous » en « je » pour que vous aussi, vous puissiez faire cette démarche personnelle. D'accord ? Je relis donc Romains, le passage que j'ai abordé là ce matin, en disant « je » à la place de « nous ». Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, j'ai la paix avec Dieu par l'intermédiaire de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que j'ai accès par la foi à cette grâce dans laquelle je tiens ferme et je place ma fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, je suis fier même de mes détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. En effet, alors que j'étais encore sans force, Christ est mort pour moi pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers moi. Alors que j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Puisque je suis maintenant considéré comme juste grâce à son sang, je serai à bien plus forte raison sauvé par lui de la colère de Dieu. En effet, si j'ai été réconcilié avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque j'étais son ennemi, je serai à bien plus forte raison sauvé par sa vie maintenant que je suis réconcilié. Bien plus, je place ma fierté en Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant j'ai la réconciliation. Alors je vous ai demandé tout à l'heure, avant de commencer, comment ça allait aujourd'hui pour vous? Quelle était votre humeur? C'était pas anodin aussi parce que je pense que bien souvent on a l'esprit abattu aussi peut-être par nos difficultés, parce que c'est aussi ce que cherche à faire l'ennemi. En fait, régulièrement, on a l'esprit abattu, on est questionné, etc. On est accusé par l'accusateur parce qu'en fait, il veut nous détourner de Dieu. Et bien souvent, moi aussi, dans ces moments de difficulté, des fois, je me dis, mais je ne mérite pas d'être aimé par le Seigneur. Et des fois même, je me dis, je devrais arrêter. Je devrais arrêter d'être chrétien parce que est-ce qu'au final, je suis pas digne, en fait, de Dieu, quoi. Mais je me dis, non, Jérémy, ça c'est des accusations et ça vient de la part de Satan. Il ne faut pas réagir comme ça parce qu'en fait, c'est ce que Satan fait au travers justement de ses accusations ou à travers d'autres choses. Des fois, ça peut être aussi des moments de bonheur, mais en dehors de l'église, etc. Des réussites, des victoires en dehors aussi, parce qu'il n'y a pas que des accusations. Mais Satan, il y a des méthodes pour nous détourner de Dieu et il va inverser la moralité chrétienne pour nous faire chuter. Mais ce que je voulais vraiment que vous compreniez ce matin, c'est qu'on est réconcilié avec Dieu. Il n'y a plus de péchés qui nous sont accusés et qui nous donnent une hostilité, qui empêchent d'avoir cette relation avec Dieu. Et le Seigneur y est là, il nous attend comme un père attend que son enfant vienne simplement lui dire pardon. De là même, je me dis des fois même, moi de toute façon mes enfants, même s'ils ne me disent pas pardon, je vais les aimer, je vais continuer à les aimer et puis je leur expliquerai ce que c'est le pardon. Et c'est ce que fait Dieu dans notre vie, c'est-à-dire que du coup, il y a pas de rancune, il y a des choses qu'il aime pas dans notre vie, c'est sûr, il voudrait pas qu'on les fasse comme nous, on voudrait pas que certaines personnes qu'on aime fassent les mauvaises choses qu'elles font, mais lui, il est complètement réconcilié avec nous, et bien souvent, c'est nous, ou l'accusateur plutôt, qui met dans notre tête à l'esprit que il y a quelque chose qui va pas, il y a un problème, et ce problème, ça fait que on peut pas avancer avec Dieu, etc. Et donc du coup, rappelez-vous que simplement des fois il faut rien faire. Simplement il faut rien faire et il faut simplement accepter la grâce qui nous est offerte parce qu'un cadeau est un cadeau. Quand quelqu'un m'offre un cadeau, je n'ai qu'à le recevoir. Alors sans relation brisée, les gens qui offrent un cadeau, ils n'attendent rien en retour. Ils n'attendent pas forcément une reconnaissance, etc. Mais en tout cas, Dieu nous a offert un cadeau. Il n'attend pas de reconnaissance, mais il attend simplement que nous, on croit simplement, qu'on lui donne notre cœur et notre vie. On l'a chanté « Reçois ma vie » comme une adoration. Parce que qu'est-ce qu'on peut offrir d'autre au Seigneur? Le Seigneur n'est pas quelqu'un de matériel. Si on lui offrait nos biens, qu'est-ce qu'il ferait avec? Il s'en fout. Voilà, ce qu'il veut, c'est que simplement la vie que lui-même nous a déjà offert, qu'il nous a donnée, et bien qu'on soit conscient que cette vie, elle nous vienne de Dieu et qu'on puisse lui donner en retour parce que c'est le seul cadeau qu'il veut recevoir de nous, en fait, en retour. Donc vous êtes réconcilié avec Dieu, vous avez la paix avec Dieu et Dieu vous aime, vous êtes ses enfants et donc vous êtes sauvés de la colère. Et aujourd'hui, vous pouvez aller de victoire en victoire, vous pouvez progresser avec le Seigneur. Et je le dis parce qu'en fait, oui, on est des chrétiens, etc. Mais malgré tout, dans notre vie, on a des difficultés, des détresses. Et on combat tous avec des choses. Mais soyez fiers aussi de ces difficultés parce que si vous êtes dans ces difficultés, c'est aussi parce que Dieu vous rend capable de les voir. Il vous a donné cette conscience par son esprit que oui, vous êtes enfant de Dieu et qu'il y a des choses dans votre vie que vous devez éliminer. Et donc même ces détresses, ces difficultés, ou les persécutions, ou les difficultés peut-être de vivre à la maison la foi, ou d'être entouré de gens non chrétiens et qu'ils se rient de vous, etc., parce que vous êtes chrétien, tout ça, prenez-les comme des fiertés, parce que c'est pour le Seigneur que vous faites tout cela. Et c'est aussi parce que vous êtes chrétien que vous subissez ces choses et que vous devez combattre contre ces choses. Et Dieu nous a donné la victoire, il est en paix avec nous, alors allez puiser en lui la force dont vous avez besoin, parce que même Jésus est mort avant même pour nous, quand nous étions encore sans force. Aujourd'hui, nous avons la force de combattre. Alors, allez combattre avec les armes du Seigneur et que voilà, vous soyez en paix avec Dieu. Amen.